Voilà. Donc bonsoir. C'est nous pour le cours de Nouveau Testament. Sur le Nouveau Testament, c'est le cinquième cours, si je ne m'abuse. Techniquement parlant, nous sommes beaucoup en retard, mais selon ce que j'ai envie, on n'est pas en retard. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui décide. Donc après, c'est mon problème à moi de faire un 7 cours, de faire 22 livres. Ça, c'est mon problème. C'est à moi de le gérer. Donc ce soir... Ah, ce soir, on a intérêt de finir acte, parce que ça fait un moment qu'on y est, et qu'il s'agirait qu'on termine quelque chose. Donc c'est le cours 5, on va continuer sur acte, et on va terminer. Normalement, je vous avais dit qu'on allait déjà... On va déjà faire ce que je vous ai dit, on fera ensuite ce qu'on peut. Donc, et ce qu'on n'aura pas le temps, ben on ne le fera pas. Voilà, on passera à autre chose. Donc je vous avais dit qu'on allait parler du parler en langue. Donc la semaine dernière, on avait déjà démarré sur acte 1, on avait... dit déjà beaucoup de choses, donc voilà, je ne vais pas forcément me répéter, mais quelque part je me répéterai un petit peu, parce que les arguments vont avec. Et donc, le parler en langue, je vais me concentrer que sur le livre des actes, quasiment, pour en parler. Et donc la première chose que je vais être obligé de dire, c'est que dans les églises où il y a une pratique dite du parler en langue, ce ne sont pas des langues connues. C'est, alors, peu importe si le terme est vulgaire ou pas, en tout cas, c'est un charabia inconnu que les gens appellent langue des anges ou ce qu'ils veulent, parce qu'ils font référence à 1 Corinthiens 13, où il dit « si je parlais la langue des anges », sauf que c'est une formule de rhétorique qui dit bien « si », donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a une, et comme il n'en est parlé ailleurs, à aucun endroit, d'une langue des anges, ça donne peu d'épaisseur au fait qu'il y en ait une que nous puissions pratiquer. Ce qui ne veut pas dire donc qu'il n'y a rien. Par contre, l'histoire de quelque chose qui n'est pas compréhensible, c'est surtout là-dessus qu'on va s'arrêter. Après, sur le terme langue, dans le grec et dans ce que nous voyons dans la Bible, on a le terme glossa. Et donc les tenants de cette pratique disent qu'ils font de la glossolalie, sauf que le terme glossa en lui-même ne peut pas indiquer en lui-même le fait d'une langue qui serait inconnue ou incompréhensible. Voilà, c'est une langue, c'est aussi l'organe, la langue, qu'on a dans la bouche. Après, ça pourrait aussi être une langue qui ne serait pas, qui serait pas compréhensible, mais le terme en lui-même ne le spécifie pas. Et il peut, au contraire, spécifier complètement l'inverse. Alors ensuite... Par rapport un petit peu à ce que j'avais dit les fois précédentes sur d'autres thèmes, on a dit que le livre des actes, tout comme les évangiles, mais le livre des actes quelque part encore plus, on est dans une phase de transition entre deux dispensations, et en plus dans le livre des actes, nous sommes donc dans l'élaboration de l'Église, donc dans quelque chose qui est quelque part en mouvement, et des gens qui reçoivent des choses de Dieu dans une période où en fait ils n'ont pas la Bible en entier, où la Bible est en train de s'écrire. Et je dis tout ça pourquoi ? Parce que je vais tenter de vous montrer que, justement, la pratique... En fait, d'ailleurs, la pratique est fausse. Les endroits où nous voyons parler en langue dans le livre des Actes, parce que ce n'est pas une pratique, en fait, d'une part, sont dans un contexte où ils sont là pour attester quelque chose qui n'a plus franchement lieu aujourd'hui. Et deuxièmement, ça c'est dans Corinthiens que c'est dit, mais on le voit également ici quelque part, en tout cas on le voit d'Acte 2, on va le voir, il y a un but d'évangélisation qui n'a jamais lieu dans les églises où c'est pratiqué. Et dans Corinthiens, l'argumentation de Paul est de dire que justement, une, c'est pour évangéliser les païens, et deux, si justement un païen vient dans l'église et vous entend parler un truc qui est incompréhensible, justement, il va juste dire que vous êtes fou. Il va rien dire d'autre. Ça, c'est l'argumentation de Paul dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Donc, mais en tout cas, on va se concentrer, vu qu'on est au livre des actes, on ne va pas s'éparpiller partout. Et on va simplement, ben, quelque part, finir le livre des actes et... Enfin, finir, c'est un grand mot. Hein. Mais justement, donc, on va voir ben, où est-ce qu'il y a parlé en langue là-dedans. Et on va aussi spécifier... des endroits où il n'y a pas de parler en langue et où on devrait s'attendre à en voir si ça devait être automatique, si ça devait être pour tout le monde, et si c'était la condition sine qua non d'avoir reçu le Saint-Esprit et par voie de conséquence le salut. Donc on va lire tout simplement le texte parce que le texte il est très simple. Il est très simple, il parle de lui-même, mais juste on va faire ressortir les choses. Donc en acte 2, on va lire tout simplement. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Partes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Ponte, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux ». Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » Et on continuera après. Première chose qu'on voit, il n'y a pas besoin de faire du grec, de l'hébreu ou quoi que ce soit. Ils ont parlé des langues, ce sont des langues qui étaient connues. Et non seulement connues, mais compréhensibles par les gens qui étaient en face d'eux. Donc ça, c'est important. Alors, c'est vrai que dans les deux autres passages où on verra, il n'y aura aucune spécificité qui va nous dire que les langues étaient connues ou non. Mais ici, à la Pentecôte, au début de l'Église, quand il y a l'effusion de l'Esprit pour la première fois, donc quelque part qui doit faire effectivement marque de référence, et qui d'ailleurs est utilisée comme telle par ceux qui pratiquent le parler en langue, il n'y a aucun doute, ils parlent des langues qui sont connues. Après, je dirais que si ce moment-là doit être un moment de référence, dans les églises où c'est pratiqué, où sont les langues de feu ? Parce qu'à partir du moment où on prend un texte en référence, à ce moment-là, il faut lire le texte, il faut comprendre le texte. Et si ça doit se passer, ça doit se reproduire. Okay ? C'est comme, je vais vous prendre un autre exemple qu'on ne va pas lire, mais je vous laisserai le loisir de le lire. Quand vous lisez la fin de l'évangile de Marc, je vais quand même vous le lire parce que ça vaut le coup, hein, ça ne sera pas long. C'est très intéressant. À la fin de l'évangile de Marc, il se passe quelque chose, et il est dit aussi quelque chose, qui donne justement beaucoup d'explications. À partir du verset 15 jusqu'à la fin, il est dit, c'est le dernier chapitre de Marc, 16, verset 15. « Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Il y en a qui prennent ce verset-là pour dire « Il faut être baptisé aussi. » Sauf que la deuxième partie du verset ne dit pas « celui qui ne croira pas et qui ne sera pas ou qui ne sera pas baptisé », par exemple. Donc, ça colle beaucoup moins. Voici, et ça c'est là où ça m'intéresse, par rapport au parler en langue. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront... » Alors, nouvelles, ça ne veut pas dire forcément des langues qui ne sont pas connues. Des langues qui, en tout cas, sont nouvelles à eux. Des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et saisi. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on voit ici. Deux choses. Ce que j'ai dit, lui, au départ, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, ils ne vont pas mourir, et ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Si ça doit être une règle intemporelle, on est tous très mal. Par contre, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est les miracles, entre guillemets, parallèles de Pierre et de Paul. En partant de l'idée que Pierre était, d'une certaine manière, reconnu, en tout cas par les premiers chrétiens, et Paul avait besoin d'être certifié. Et comme c'est Luc, le compagnon de Paul, qui écrit Actes, et qui écrit l'évangile de Luc, bien sûr, il y a un côté d'apologétique pour Luc, de prouver les choses. Et donc, il écrit le livre des Actes en faisant ce parallèle entre le ministère de Pierre et puis le ministère de Paul au début de l'Église. Et on voit les parallèles des miracles. Et si vous vous rappelez, les miracles qu'on a vus la semaine dernière des deux, c'est exactement ce qui est marqué ici. C'est le linge de lin ou l'ombre de lin qui va guérir les malades. Là, il est parlé d'imposer les mains. Les breuvages mortels, on sait que, comment il s'appelle, Paul, à un moment donné, il a pris des breuvages, où il a été piqué par une vipère dans le voyage qui est à la fin des Actes, etc. Et surtout, la chose intéressante, donc la première chose que je veux dire, c'est que ça ne peut pas avoir valeur de norme. D'une part, par rapport à ce que j'ai expliqué du fait qu'on est dans un contexte transitoire, mais deuxièmement, parce que ici, ces choses-là, ce sont les apôtres qui l'ont vécu. C'est pas nous et c'est pas pendant toute l'histoire de l'Église. Donc, y compris les nouvelles langues. Et surtout, ce qui est très important, c'est ce qui est dit à la fin, le dernier verset de l'Évangile de Marc. Il est dit « Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Et si vous voulez retenir une chose, le point d'argumentation central, il est là. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses dans Actes que je dis qui ne sont pas et qui n'ont pas lieu d'être quotidiens aujourd'hui et depuis bien longtemps? C'est parce que dans cette période particulière, Dieu confirmait par des miracles la parole. Mais une fois que la parole est écrite, il n'y a pas lieu de confirmer par des miracles tous les quatre matins. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, dans des situations particulières, Dieu va peut-être faire encore effectivement des miracles pour confirmer sa parole. Oui, je crois que je vous l'avais dit. C'était au cours que je vous avais dit, peut-être. En ce moment, par exemple, dans les pays du Maghreb, il y a des ex-musulmans qui se convertissent. Et la manière. Alors, c'est pas systématique, c'est pas tout le temps. Ok. Mais en tout cas, il arrive, il y a eu un certain nombre de témoignages, et plus qu'un, où en fait, Dieu leur parle dans un songe, dans un rêve. C'est pas la manière habituelle de parler de Dieu. C'est pas un missionnaire qui est venu leur prêcher, peut-être. Mais Dieu, il le fait parce qu'ils sont dans un contexte particulier et qu'il connaît leur cœur et qu'il sait comment ils vont répondre. Et là, on est dans une période. Alors là, la période est beaucoup plus large, on est d'accord, on n'est pas dans quelque chose de très ponctuel. Et ça dure un petit peu. Mais du coup, il se passe des choses qui n'ont pas valeur de norme. C'est ça que je veux que vous compreniez. D'où ici, acte 2, très bien, ben, il parle en langue. Et qu'est-ce qui se passe ? Très clair, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, il y a des gens qui viennent de partout, qui sont des juifs qui habitent loin, ou alors qui sont ce qu'on appelle des craignants de Dieu, qui sont ici nommés prosélytes, c'est-à-dire des païens qui se sont convertis au judaïsme et qui croient dans le Dieu de l'Ancien Testament. Tout comme un certain nombre que l'on voit dans les évangiles. On voit des centeniers, on voit des gens comme ça, qui ne sont pas juifs, mais qui sont des gens qui croient, en fait. Là, en acte 10, on va le voir dans le contexte ici, un centenier, justement, qui est un craignant Dieu, et qui n'est pas un juif. Et donc, tous ces gens sont là, donc il y a des gens qui croient, et puis il y a des gens, effectivement, qui ne croient pas, qui sont là dans la foule, et Dieu fait quelque chose de particulier, et c'est le début de l'Église. Et c'est le Saint-Esprit qui descend, et qui a été annoncé par Jésus-Christ. Et il y a effectivement cette manifestation de parler en langue. Et le but de se parler en langue, c'est quoi ? C'est d'évangéliser les autres. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, on les entend dans notre langue maternelle parler des merveilles de Dieu. Donc on les entend dans la langue maternelle et parler des merveilles de Dieu. Et donc on comprend. On comprend ce qui est dit. C'est pas un charabia qui juste manifesterait une puissance particulière. Non, non. C'est très clair. Et on sait qu'il parle de Dieu et des merveilles de Dieu. Donc, ici, sur ce passage-là, donc de manière très claire, voilà, on ne parle pas de charabia, il y a un parler en langue. Je vous explique que le contexte fait qu'effectivement, il y a la réception du Saint-Esprit et qu'elle est accompagnée du parler en langue ici. Elle ne le sera pas à chaque fois. Je vous prends un exemple très simple. Acte 9, la conversion de Saul de Tarse, donc de l'apôtre Paul. Ben vous pouvez lire le texte dans le sens que vous voulez. Elle est expliquée 3 fois dans Acte. À aucun moment, il parle en langue. À aucun moment. Par contre, il se passe d'autres choses qui ne se passent pas avec d'autres personnes. On va aller juste un tout petit peu plus loin. Vous prenez Acte 6. Acte 6, à partir du verset 7. Peut-être qu'on le lira un peu plus tard. C'est Étienne qui évangélise l'eunuque éthiopien sur le char. C'est Étienne, je me trompe, c'est Philippe, pardon. C'est oui, Étienne est déjà mort. Il est quelques versets avant. Oui, dans la foulée, excusez. Oui, dans le même chapitre, dans le chapitre 7. Donc là, c'est Étienne qui effectivement, rencontre l'eunuque sur le char. J'ai encore dit Étienne. Non, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est clair, oui, c'est Philippe. Excusez-moi, c'est Philippe. C'est même. Oui, ah oui, parce que j'ai Étienne décrit là, le verset qui est devant moi, il y a Étienne. Bon, enfin, peu importe. En tout cas, c'est Philippe. Et d'ailleurs, je me trompe. D'ailleurs, c'est au chapitre 7, je pense, non? Hein, c'est au chapitre 7. Hein, même 8. C'est même plus loin. Oui, tu as raison. 8:26, à partir du verset 26, jusqu'à la fin du chapitre. C'est ça, acte 8:26, exactement. Donc là, c'est Philippe qui parle au grand. Hein, et on va y revenir après. Mais en tout cas, il va y avoir du coup la conversion de cette eunuque éthiopienne, de ce notable. Il va y avoir baptême de cette eunuque dans une flaque d'eau quasiment. Enfin, peut-être que j'exagère un peu pour la flaque d'eau, mais en tout cas, dans le peu d'eau qu'ils ont trouvé, il n'y a pas eu de préformation au baptême. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas expliquer aux gens, mais au contraire, je pense qu'il faut expliquer. La préformation, finalement, c'est la discussion qu'il a eue avec Philippe, qui lui a expliqué un certain nombre de choses, quand même. Mais il n'y a pas de parler en langue étrangère, à cet endroit-là. Et donc, voilà. Et donc, ça, là, on a deux conversions qui nous sont quand même décrites, voilà. Donc, on y reviendra à acte 8 et à Philippe pour s'arrêter sur d'autres choses. Donc acte 2, c'est ça. Ensuite, je vais quand même continuer le texte pour voir un petit peu d'autres choses et on ira voir les deux autres endroits où il y a du parler en langue. Acte 10 avec Pierre qui va donc aller évangéliser Corneille, et puis acte 19 qui est un passage très très intéressant, encore une fois dans son contexte, et qui accrédite mon explication de la mise à jour perpétuelle de la période des actes jusqu'à celle incluse de actes. C'est-à-dire que je vous dis, voilà, il se passe des choses qui sont nouvelles, c'est la chose que je vous ai expliqué il y a plusieurs cours. Quand est-ce que Pierre s'est converti? Vous pouvez en mettre quelques-uns des moments. Est-ce qu'il s'est converti à la première pêche? Est-ce qu'il s'est converti à la deuxième pêche? Est-ce qu'il s'est converti quand il a vu Jésus crucifié? Est-ce qu'il s'est converti à la Pentecôte? Voilà. Donc, et pourquoi? Parce qu'on est dans une période qui est transitoire entre deux périodes que j'appelle les dispensations, où Dieu fonctionne avec certaines règles avec l'humanité dans une période, et avec des règles un peu différentes, voire éventuellement beaucoup différentes, dans une autre. Et là, on est en train de passer de l'un à l'autre. Et donc, se passent des choses qui n'ont pas forcément valeur de normes, qui sont des fois un petit peu originales, etc. Pareil, par rapport à cette transition et à ce que je viens de dire sur la foule qui était en acte 2, la semaine dernière, on a lu dans acte 4, je crois, avant de parler d'Ananias et Saphira, On avait parlé donc de l'église idéale. Pareil, les chrétiens qui pensent que l'église idéale, c'est ce que, les 3-4 bricoles qu'on voit dans le début de Actes, qui font valeur de... Voilà, ça, le christianisme, c'est ça. C'est, on vend nos propriétés, on met tout en commun, il n'y a plus de pauvres, etc. Donc, et après, je vous ai expliqué à Ananias et Saphira que déjà, à travers cette explication-là, qui parle de deux chrétiens, donc je ne vais pas tout revenir, mais en tout cas, que l'histoire de la communauté universelle, super, géniale, on partage tout, c'est pas aussi flagrant que ça. Qu'ensuite, quand il y a l'institution des diacres, la communauté tellement universelle et fantastique, elle part déjà en sucette. Et pourtant, c'était les apôtres qui distribuaient la soupe. Hein. C'était bon, je sais pas, manifestement, même pour distribuer la soupe, ils n'étaient pas bons. Mais bon, peu importe. On explique la chose. Mais donc, juste l'histoire là de tous ces gens qui sont à Jérusalem et qui viennent de partout. Et d'ailleurs, il est précisé là dans... Alors, je vais un peu vite, va moins vite, tonton. Tu vas trop vite. Chose intéressante, je vous ai dit, par exemple, qu'on va parler de l'Épître aux Romains, et que l'Épître aux Romains n'a pas été fondée par Paul, et on ne sait pas par qui elle a été fondée, et peut-être même qu'on n'en sait rien du tout, parce qu'on présuppose que ce sont justement par des gens qui étaient là à ce moment-là. Là, dans les nationalités qui sont citées, il y a et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, etc. Donc ceux qui sont venus de Rome à ce moment-là ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ont reçu des enseignements, puisque finalement, les gens, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont restés. Et pourquoi il y a cette espèce de communauté universelle où ils ont tout vendu, ils ont partagé, il n'y avait pas de pauvres, etc. Parce que les gens sont restés, donc ils n'avaient plus de chez eux. Donc le minimum syndical, c'était de ne pas les laisser mourir dans la rue. Ou alors de faire... voilà, qu'est-ce qu'a fait Jésus ? La foule le suivait, elle se retrouve dans un désert. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un miracle. Ben, là aussi, il y a un miracle. Le miracle, c'est cette forme de communauté où tout se partage, et c'est ponctuel pendant un temps, parce que les gens, ils sont là, ils vivent un truc qui est le début de l'Église. Et au bout d'un moment, ils vont rentrer chez eux. Ils vont aller évangéliser, parler à d'autres. Et justement, apparemment, l'église de Rome va démarrer, et certainement plein d'autres. Et tout le bassin méditerranéen va être arrosé de la sorte. Et donc ça, c'est une chose que je voulais dire. Mais l'autre chose, c'était laquelle ? Donc il y a tous ces gens un peu... Oui, voilà. Et donc l'histoire de la communauté, donc qui s'explique par toutes ces nationalités qui finalement restent là, et il faut bien faire quelque chose, hein. D'ailleurs, je dirais que je pense que les premiers jours où ils ont distribué la soupe, il n'y a pas eu de problème entre les hellénistes et les gens d'origine juive. Ils avaient faim. Mais comme justement ça a duré, au bout d'un moment, eh bien, on s'installe bien et on cherche les chicanes. Et oui, mais tu en donnes plus à l'autre et tout. Et pourtant, ils partageaient. Donc voilà, donc ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'était par rapport au fait que vendre sa maison et tout, c'était pareil, c'est pas une norme. Et c'est tellement pas une norme que même dans le contexte où ça se passe, c'est-à-dire là, ici, Pentecôte et début de l'Église, Ananias et Saphira, Pierre, il ne leur reproche pas de pas tout donner. Il leur reproche de pas être net, de pas être clair. Il leur dit, mais si tu n'avais pas vendu ton champ, il serait à toi. Et une fois que tu l'as vendu, le prix, tu en fais ce que tu veux. Par contre, dis ce que tu fais. Dis ce que tu fais et ne dis pas autre chose pour dire que tu es spirituel comme les autres. Parce que ça, c'est mentir au Saint-Esprit et bye bye, tu vas dans le trou. Voilà, c'est bon. Mais bon, la semaine dernière, j'avais expliqué que ça aussi, c'est pas une norme, loin de là. Sinon, il n'y aurait pas eu cours ce soir. ni la semaine dernière, d'ailleurs, je pense. Donc voilà. Alors, et une autre chose, voilà, c'est ça que j'avais pas dit la semaine dernière, qui est quand même intéressant à noter aussi. Par rapport au fait de tout de vendre et de tout donner, ils vendent leur maison, leur champ, leur machin, ils donnent tout aux apôtres, c'est en commun, il n'y a plus de pauvres et tout, c'est génial et tout. Sauf que quand vous lisez les lettres par la suite, donc notamment de Paul, vous réalisez quoi ? Qu'il y a, dans le premier siècle, il y a des églises maison. Mais les églises maison à l'époque, ce n'est pas les églises maison aujourd'hui. Aujourd'hui, si on est, je ne sais pas, 10 ou 15 clichés dans une maison petite. Là, on va dire, ce sont des haciendas. C'est-à-dire, c'est des riches qui ont des grandes maisons, des grandes propriétés, qui, je vais choquer qui vous voulez, qui ont aussi des esclaves, et des fois les esclaves, ce sont même leurs frères dans la foi. Et il se trouve que dans les épîtres de Paul, on s'aperçoit que l'abolition de l'esclavage dans ce cadre à cette époque-là n'était manifestement pas la priorité des soucis de l'apôtre Paul. Son souci était de dire, toi tu es esclave et ton maître est un frère dans l'église, n'en profite pas pour pas bosser. Et toi, tu es le maître, tu as des esclaves qui sont des frères dans l'église, traite-les correctement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, je trouve ça intéressant parce que, en tant que chrétien, si on veut élargir et partir dans d'autres choses, il y a beaucoup de causes qui sont bonnes et qui sont légitimes sur terre. Mais la question, c'est est-ce que je dois dépenser beaucoup d'énergie et d'argent dedans ? Et la réponse est sous-entendue, ben non, pas trop. Voire éventuellement pas du tout, mais bon, pas forcément, mais en tout cas, pas beaucoup. Ma cause, elle est ailleurs. Elle est là-dedans. Et le reste, ça doit rester à sa place. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas m'y engager, pourquoi pas, mais ça doit rester quand même très, très marginal dans ma vie. Ah oui, donc voilà, donc, je disais donc, c'était des églises maison. Avec des riches propriétaires, parce que j'ai toujours pas fini ma phrase. Oui, donc voilà. Et donc, en fait, si on vend tout et on met tout en commun, il n'y a plus de lieu pour se rassembler non plus. Puisque finalement, les premières églises au début de l'église, de l'ère de l'église, c'est parce qu'il y avait justement des gens très riches et qui restaient riches et propriétaires. Et qu'ils avaient un lieu pour accueillir tout le monde et faire qu'il y ait une église chez eux. Après, ça ne veut pas dire non plus que c'est une norme et qu'on doit faire pareil aujourd'hui, trouver un riche et lui mettre le grappin dessus. Ça peut être une formule, mais on va essayer d'avoir son assentiment volontaire, hein, si ça doit être le cas. Mais en tout cas, je veux dire, c'est pareil, c'est pas une norme non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc si ça se passe comme ça, et si la norme c'est on vend tout, on donne tout, puis on redispatche, je ne sais pas comment, ben ils vont faire leur culte dans la rue, quoi, à un moment donné. Parce que, voilà, quand il y a beaucoup et qu'on divise avec beaucoup de personnes, à la fin, il n'y a qu'un petit peu à chacun. Il n'y a pas beaucoup. Enfin voilà, après, ce n'est pas un jugement de valeur, ça n'a aucune importance. Donc oui, autre chose, on continue le texte, parce que la suite est intéressante quand même. Donc ces gens ne sont pas ivres, verset 15, verset 16, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17, donc toujours acte 2. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Ça, ils ne l'ont pas vu à la Pentecôte, en tout cas. Un certain nombre de choses qui est dites là. Parce que la prophétie, elle est aussi pour plus tard. Mais en tout cas, elle s'accomplit partiellement à ce moment-là. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Le jour du Seigneur, c'est le jour où Jésus revient pour régner pendant 1000 ans. Et comme je vous l'avais dit, c'est un jour de jugement. C'est pas un jour olé olé, on va faire la fête. Enfin, nous, oui, mais ceux qui vont être en face, non, ils vont pas faire la fête. Tout comme le millénium, le royaume d'Israël sur terre, il va avoir lieu sur terre et ça sera juste, parfait et équitable, et en même temps pour celui qui est non-croyant, enfin qui est non-croyant, c'est difficile de ne pas croire, tu as Jésus devant toi, mais enfin, qui ne veut pas avoir la foi, disons, plutôt, ça serait mieux formulé, la vie est intenable. Donc tu es au moins obligé de faire bien de manière formelle, parce que sinon tu es mort, tout simplement, puisque comme on l'a vu dans le sermon sur la montagne, qui s'adresse à cette période-là, c'est pire que la loi. Et comme déjà, et la loi, vous avez pas mal d'occasions de passer sur le bûcher, c'est une formulation, puisqu'il n'était pas parlé de bûcher. Bon, ben voilà, donc du coup, c'est. Voilà. Donc peu importe, c'est pas le sujet. C'était juste pour dire que ici, la prophétie qu'il dit qui est en train de s'accomplir, Pierre, elle est en premier lieu, elle n'est pas pour ce moment-là. Elle est pour encore plus tard, le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, c'est pas là à la Pentecôte. Ça viendra plus tard. Mais par contre, lui, il dit qu'elle s'applique partiellement déjà à ce moment-là. Ce qui explique aussi qu'un certain nombre de choses que je lis là ne se sont pas appliquées à ce moment-là. La lune changeait en sang, enfin, etc. Mais on continue, c'est pas fini. L'arrivée donc du jour de glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Juste une chose que je dis en passant rapidement. Si l'apôtre Pierre doit être un exemple pour nous d'un point de vue spirituel, c'est dans l'exemple que nous avons de lui où il intègre immédiatement ce que Dieu lui dit. Ce que je veux dire, c'est que là, il est en train de dire « vous l'avez crucifié ». Tu es gentil juste avant qu'il le crucifie, toi tu l'as juste renié trois fois quand même. Donc tu te places plutôt facilement du bon côté du camp. Mais c'est pas grave, c'est une bonne attitude de sa part, malgré tout. Pas malgré tout en fait, c'est une bonne attitude. C'est-à-dire que oui, si on a les choses de manière naturelle, on dit mais attends, de quel droit tu viens la ramener? Mais en fait, non, mais spirituellement, il a compris. Les choses sont réglées, les choses sont passées, Dieu ne lui fait pas grief, il ne lui fait pas payer ni son reniement, ni rien du tout. D'ailleurs, il a rencontré Jésus ressuscité après ça sur la berge, où il lui fait des promesses. Mais je dis ça parce que quand on va aller voir Acte 10, la rencontre avec Corneille, vous allez voir la même chose. Pierre a une vision. Dans la vision, il refuse ce que Dieu lui montre. Le lendemain, des envoyés de Corneille viennent le chercher. Et quand il vient et qu'il fit le lien des choses, il parle au présent. Dieu m'a montré, comme si ça faisait 10 ans qu'il lui avait montré. Comme s'il avait compris cette vérité spirituelle depuis 10 ans. Alors que là, le gars, il y a une heure, il n'avait rien compris. Enfin, une heure, j'exagère un peu. Mais on va dire, il y a 24 heures, il n'avait rien compris. On le verra tout à l'heure. Donc ici, voilà, donc verset 25. « Car David dit de lui, donc de Jésus, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite. » Afin que je ne sois point ébranlé, aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée. » Quand on lit ça, on a l'impression qu'il va faire asseoir un descendant sur son trône. Ça parle de Jésus là et maintenant. Faux. Faux. Ce qu'il a prévu et annoncé, c'est... Donc il a prévu et annoncé en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait point la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Là, il est en train de parler de la résurrection de Jésus. Et en fait, là, il est en train de citer le psaume 16, qui est un psaume messianique, où il dit grosso modo ce qui est marqué ici, et qui ne parle pas de David, qui est l'écrivain du psaume, mais qui est en train de parler de Jésus à venir. Et avec le contexte, pour expliquer... avec un certain verbage, la résurrection de Jésus. Donc il est en train d'expliquer que David, dans un psaume, en tout cas dans ce psaume messianique, psaume 16, il annonce la résurrection de Jésus. Il n'est pas en train de dire que voilà, cette histoire du fait qu'il y aura toujours quelqu'un sur son trône, c'est parce que quand il y aura le millénium, c'est Jésus qui sera sur le trône de David. Mais ça, encore une fois, c'est pas à ce moment-là que ça se passe. Ça sera plus tard. Et là, ce sur quoi il est en train de parler, c'est de la résurrection de Jésus. Et il est en train de donner du sens à un psaume messianique. Il n'est pas en train de dire que le fait qu'il y a un successeur, c'est en train de s'accomplir là, maintenant. voyez. Passons. Donc, ça c'est une chose. Acte 2, on arrête. Vous avez tout compris sur acte 2. Interrogation écrite la semaine prochaine. Ah non, on n'est pas là, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est ça que je n'ai pas annoncé. Les deux prochains lundis, il n'y aura pas cours. Parce que je n'ai pas envie. Non, un peu aussi, d'ailleurs. Non, parce qu'on va aller à Varsovie la semaine prochaine. Et du coup, c'est juste avant et juste après. Puis certains de vous y sont aussi. Donc à la fin, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Donc c'est plus simple d'alléger le programme. Et on continuera dans trois lundis. Voilà. Ça, c'est bien, moi je fais les annonces au milieu du cours. Après trois quarts d'heure de cours, je fais les annonces. C'est super. C'est génial, c'est très bien organisé ça. Alors, ensuite, on avait dit qu'on allait parler donc, par rapport, donc, parce qu'on est toujours sur l'histoire du parler en langue. Hein. Acte 10. On va essayer de lire un peu moins de choses quand même, parce que lire c'est très bien et c'est nécessaire. Et en même temps, on ne peut pas se permettre non plus de tout lire de longue. Donc voilà, on va lire le début du chapitre. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, donc c'est-à-dire un chef d'une bonne centaine de légionnaires romains, de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Donc, il était pieux, ça c'est une chose, vous pouvez comprendre à peu près. Craignait Dieu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas juif, mais il est ce qu'on appelle un craignant Dieu. En fait, pour faire simple, un converti au judaïsme. Qui croit au Dieu d'Israël, en fait. Et qui, lui aussi, va être mis à jour par la suite de la révélation et par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, cet homme était plus craignant en Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Alors, ça aussi, une petite parenthèse. Il y a un certain nombre de choses que là, j'ai dit... qui n'ont pas valeur de normes, et donc qui n'ont pas lieu tout le temps, et qui ne sont pas, je dirais, la vie chrétienne normale, pour faire simple, et qui ont lieu parce qu'on est dans une période de transition, parce que Dieu veut attester sa parole par des miracles, comme on l'a lu dans Marc. Là, c'est pareil, je veux dire, les songes, Dieu te parle, un ange, machin qui apparaît, tout ça, c'est pas la vie chrétienne normale. Ça peut arriver, Dieu peut le faire, mais je veux dire... C'est pareil, quand on est dans des milieux où toutes les semaines ou tous les 15 jours, il y a toujours quelqu'un qui a rencontré un ange, ou Jésus lui a apparu, ou je ne sais pas quoi, excusez-moi, c'est du pipeau. C'est tout. Voilà, c'est simple, c'est du pipeau. C'est pas scripturaire. Que ça arrive extrêmement occasionnellement, ou dans un contexte qui le justifie, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les songes, pour les gens du Maghreb, par exemple, chez eux, oui, mais que ça arrive tous les 4 matins, non, c'est que là-dedans, admettons, il y en a un de vrai, tout le reste, ce sont des menteurs, c'est tout. C'est tout. Je dis ça parce que là, lui, il a un songe, donc en même temps, il a le songe. Donc, les regards fixés sur lui et ses idées froides, j'ai sauté un chapitre. Donc, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, donc verset 4, les regards fixés sur lui et ses idées froides, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Donc, voilà, on sait qui c'est. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Bon. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Il n'y a aucun problème avec ça. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Donc là, c'est même pas un songe, machin, c'est... Il est dans un état, on va dire, enfin, second, ou en tout cas, il n'est pas dans son état normal. Il est en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait s'abaisser vers la terre. et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas manger ce qu'il y a dans la nappe ? Parce que ce sont des animaux qui sont impurs selon la loi mosaïque, dans le Lévitique. Donc là, par exemple, dans ma note qui est marquée ici, en Lévitique 11 et en Deutéronome 14, par exemple. Donc en fait, voilà, mais non, mais et ça se passe, et c'est très intéressant ce qui va se passer ici avec Pierre. Pierre est un juif, et tous les juifs à la Pentecôte qui se convertissent, enfin qui se convertissent, c'est même une manière de parler, parce que Pierre, comme je vous dis, quelque part il est converti avant, mais en tout cas, qui se mettent à jour avec la nouvelle dispensation, qui se mettent à jour à ce que Dieu fait, et ce que Dieu veut pour les hommes à ce moment-là. Donc lui, il est juif, et en fait, la première chose qui se passe pour eux, c'est que, ben déjà, on est juif, même si Jésus est ressuscité, etc., ben, la première chose qu'on fait, on va retourner à la synagogue. On va retourner au temple. On est juif. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contre-indication. Et pendant un premier temps, ils vont continuer à y aller. C'est ce qu'on va voir dans le livre des Actes. Deuxième chose, un juif, il n'a rien à voir avec les païens. Donc on n'a toujours rien à voir avec les païens. Pourtant, Jésus a dit, allez par le monde. Non, non, mais nous, on ne va pas se souiller avec les païens. Et donc là, en fait, c'est ce que Dieu est en train de montrer à Pierre. Il dit, attends, ce message, il est pour tout le monde. Arrête de voir les autres comme impurs. Il faut leur annoncer cette bonne nouvelle que je suis ressuscité, etc. etc. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Cornelius s'étaient informés de la maison de Simon et se présentèrent à la porte. Juste aussi, c'est toujours intéressant, les gens qui vivent des miracles, des songes, des visions, la permanence, eux, aujourd'hui, ils comprennent tout. Eux, ils ont des visions, ils ont des machins, des trucs de Dieu, et eux, ils ont tout compris. Et moi, dans la Bible, je vois des gens qui sont terrifiés par ce qu'ils vivent, qui sont étonnés, qui ne comprennent pas la moitié de ce qui leur arrive, et qui comprennent éventuellement dans un deuxième temps. Mais eux, par contre, aujourd'hui, ça leur arrive. Tous les quatre matins, ils comprennent toujours tout. Et quand vous cherchez c'est quoi l'intérêt de ce qui leur arrive, il n'y en a pas. À part de faire du sensationnel, il n'y en a pas. Hein ? Donc voilà, en tout cas, peu importe, allons-y. Donc on peut tourner la page, on peut avancer un petit peu. Voilà, donc verset 19. « Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les envoie. » Donc Pierre descendit, il suit les hommes. Donc eux, il lui parle à Pierre de Corneille qui les envoie. Donc Pierre les fait entrer au verset 23, et puis il part avec eux. Verset 24, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Donc apparemment l'attitude de Corneille était d'avoir l'impression de voir un ange ou... on va dire au moins un ange. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Oui, il m'a appris il y a 24 heures. Et encore, il y a 24 heures, tu ne comprenais même pas ce que tu venais de voir. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais par contre, ça, c'est bien pour nous. C'est que quand je comprends quelque chose dans la parole de Dieu, quelque chose que j'étudie ou quelque chose que Dieu me montre ou me fait expérimenter ou que je comprends dans un message, je n'ai pas besoin de l'expérimenter pendant 10 ans avant de dire que c'est intérêt. Ok, d'accord, j'ai compris, c'est comme ça maintenant. Et même si après peut-être je vais me tromper, tomber, échouer par rapport à ça, parce que là, regardez, il a compris, il a tellement bien compris que plus tard dans le livre des Actes, Paul a été obligé de le reprendre en public dans une taverne parce qu'il mangeait avec des non-juifs Et quand il a vu des judaïsants arriver, il a changé de table. Bravo Pierre. Mais bon, nous on est pareil. On a des points sur lesquels on est pétochard. On se met pas du côté de la vérité et on a tendance à s'éclipser. Ben lui c'était ça, parce que lui culturellement, mais c'était fort. Les gars, ils sont juifs, ils sont élevés dans un truc. Enfin, je veux dire, pour lui c'est grave de manger de tels aliments, comme aujourd'hui un musulman qui va pas manger du porc ou de la viande avec du sang. Je veux dire, c'est grave. Pour lui c'est grave. Et là de s'acoquiner, de manger simplement avec des gens, ils sont pas juifs, ils ont peut-être pas lavé les mains, ils ont peut-être mangé des trucs qu'il faut pas, machin, tout ça. C'est pas bon pour eux. Eh bien, il l'a appris à travers une vision, ça s'est bien sermenté 24 heures après tout, au point qu'il te dit « Dieu m'a montré, ça va, j'ai compris et tout ». Quelques années après, le gars, alors qu'il devrait, à notre point de vue, il devrait être avancé, être plus mûr. Et donc ça, c'est intégré, mais c'est même plus qu'intégré. Ben non, la chair est la même, et à un moment donné, t'as tes points faibles, t'as tes trucs où tu as chopé, et puis voilà. Et il fait mal. Enfin, il fait mal aux gens, et puis il se fait mal, et il se trompe. Donc voilà, avançons un petit peu vite. Je lis un peu plus vite, moi, dans ma tête. Donc voilà, oui, verset 33. « Aussitôt, donc, j'ai envoyé vers toi... et tu as bien fait de venir. » Donc c'est Corneille qui parle à Pierre. « Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Pierre, lui, m'a ordonné de dire quoi ?« Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Une chose que je veux noter ici très importante, parce que là je n'ai pas les versets, mais au moins 4-5 fois, même plus je crois, on voit un lien entre une adoration correcte, un amour véritable, et le préambule, c'est de ne pas faire exception de personne, de ne pas faire de favoritisme, et pas juste entre un riche et un pauvre. Donc là, c'est par rapport aux nations, mais à d'autres endroits, c'est pas ça. C'est le riche, le pauvre, certes, mais c'est les gens dans l'église. C'est pas j'ai mes copains, ou j'ai ma famille, ou j'ai mon clan, ou eux, ouais, eux, moins. Non, c'est... Il y a un minimum syndical à donner à tous, et mon comportement, il doit être... Évidemment, il va pas être uniforme de manière absolue envers tout le monde, mais il doit être uniforme à un certain niveau de foi, d'amour et de miséricorde que j'ai à donner aux gens. Je suis appelé à donner miséricorde et à avoir compassion et à avoir un minimum de relations et d'amour avec tout le monde, avec les païens, avec n'importe qui dans l'église, avec celui qui pue, avec celui qui sent bon. Après celui qui pue, peut-être que je ne vais pas aller beaucoup trop près de lui parce que ça me gêne un peu quand même. Mais je peux être au moins lui dire bonjour. Je prends des exemples qui sont quand même concrets. Mais après, voilà, ça peut être autre chose. C'est, y a des gens, ils ont été élevés communistes, ils n'ont pas trop d'argent. Ben, celui qui vient dans l'église et qui est beaucoup mieux habillé, qui a une plus grosse voiture, ben lui, je sais qu'il a une belle maison, je suis passé devant, franchement, il était sympa. Moi, je vis dans un truc, pourrait m'en donner un peu, quoi. Lui, je vais être un peu réticent à dire bonjour, à discuter deux minutes avec lui. Non, ne sois pas réticent. T'es pas obligé d'aller à lunch tous les jours avec lui, mais quand tu es à l'église, tu peux dire bonjour, avoir un minimum de sociabilité, même avec lui, que dans ton cadre, le gars, mais tu peux même pas le supporter. Voilà. Ou l'autre, dans l'autre sens, je veux dire, on s'en fiche. Ou c'est par rapport à des nationalités, ou c'est par rapport à des... j'en sais rien, des manières de s'habiller. Non, mais moi je supporte pas les gens qui sont habillés comme ça ou ceci ou cela. Enfin bref, on peut avoir plein 50 choses. Donc je veux dire, il y a une espèce de on doit avoir un certain degré d'acceptation de tous. Voilà. et de s'interroger, est-ce que je ne suis pas en train de faire du favoritisme ? Au moins de s'interroger. La réponse, elle n'a pas à être donnée aux autres. Mm-hmm. Mais moi, devant Dieu, voilà. Est-ce que là, je ne suis pas en train de juste fonctionner avec mes potes ? Ou avec ma famille ? Ou avec ceux qui... Voilà, ça... Ouais, eux, ça va bien, mais eux, moins. Quelles que soient les raisons. Là, les critères, on s'en fiche, les critères. Il n'y en a même pas de critères qui est donné. Ils ne sont même pas discutés, les critères. Ouais. Donc ça, je pense que c'est très important, parce que là, il y a juste ce verset-là, ici... Mais il y a beaucoup d'autres endroits, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, où il est parlé de ça. Il est parlé de ça. Et ce n'est pas parlé que de pauvres et de riches. Je vous l'assure. Alors voilà, verset 38. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, etc. » Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, donc en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. Voilà, verset 44. Excusez-moi, je rappelle un peu là. Donc, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit... oui, alors les mots, c'est quoi ? C'est tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ça, c'est ce que Dieu Pierre, c'est ce que Pierre dit en attestant de choses qui sont écrites dans l'Ancien Testament, qui sont connues de beaucoup des gens. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux, tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Encore une fois, parler en langue, dire des choses qu'on comprend, ils glorifient Dieu. S'ils glorifient Dieu, je ne sais pas si ça glorifie Dieu, moi j'en sais rien. Par contre, si je comprends ce que tu dis et que tu dis des choses positives vis-à-vis de Dieu, je sais que tu glorifies Dieu. Donc manifestement, voilà. Mais c'est pas forcément hyper clair de dire que là, c'est de l'inconnu. Mais quand même, ça a plutôt un sens là. Et surtout, la chose, c'est que ici, pourquoi ça arrive ? Parce que là, il y a des circoncis, donc des juifs, et ils étaient étonnés de voir que le Saint-Esprit, il est aussi pour les païennes. Donc, Dieu atteste par l'effusion du Saint-Esprit et manifestation d'un parler en langue qui n'est pas la langue natale, en tout cas des personnes. Pourquoi ? But d'évangélisation et d'attester la parole de Pierre préalable, qui dit que parce que Jésus est ressuscité, il y a le pardon des péchés en son nom. Donc, encore une fois, c'est quoi ? C'est miracle ou manifestation exceptionnelle pour attester quelque chose. Et pour les juifs qui pensaient que les païens ne pouvaient pas vivre la même chose, et pour les païens qui ont besoin du même signe quelque part. Et surtout d'attester la parole de Pierre, qui quelque part diffère ou commence à dénoter de ce que les juifs connaissaient de l'Ancien Testament, malgré tout. Donc voilà, ça c'est la chose que je voulais montrer à cet endroit-là. Maintenant, on va faire beaucoup plus vite et on va aller en acte 19. On va lire beaucoup moins, mais si je prenais mes... Je marque sur des papiers, puis je ne lis pas, donc c'est sûr que ça aide pas. Ça aide pas à faire du tri. Voilà. Ouais, alors, si vous voulez noter le passage, c'est acte 2, 4 à 12. Acte 2, 37 à 42. Ce qu'on vient de dire sur Corneille, ce que j'aurais dû me contenter, mais c'est pas grave, on avait des choses intéressantes à dire auparavant quand même. En tout cas, là, je parle de ce qui concerne le parler en langue. Hein. C'est acte 10, 44 à 48, ce qui était avant, de toute façon, était intéressant, il fallait le dire. La conversion de Saul de Tarse, ça sera acte 9, 1 à 18. Et là, on va aller dans acte 19, versets 1 à 7. Et alors là, c'est grandiose, là, ce qu'on lit. Ça résume ce que je vous ai dit sur deux cours, ou trois, ou quatre, ou cinq peut-être, je ne sais pas. Acte 19, j'ai dit 1 à 7. Alors écoutez ça, donc ça doit être certainement peut-être le troisième voyage de Paul, je ne sais plus. Un des voyages de Paul, peu importe. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?» quand vous avez cru. Donc, quand est-ce que tu reçois un esprit ? C'est quand tu crois déjà. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Intéressant. Il appelle ça des disciples, lui. Hein. Verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé ? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Et oui, baptême de repentance, qui devait annoncer le royaume terrestre de suite et qui du coup n'a pas lieu, qui est reporté. Il y a eu, ça a été différé, c'est comme les matchs de foot. Alors, donc Saint-Esprit. Donc il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé ? Ils répondirent, le baptême de Jean. Mais ça, c'est très important, parce que ça veut dire que eux, leur connaissance de Dieu, elle s'est arrêtée au baptême de Jean, à la prédication de Jean le Baptiste, et éventuellement à Jésus qui s'est fait baptiser par Jean le Baptiste. Mais après, la crucifixion, résurrection, baptême du Saint-Esprit, Pentecôte, je ne sais pas de quoi vous parlez là. Verset 4. Alors Paul dit, pardon, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc s'ils prophétisaient, ils disaient des choses de la part de Dieu. Donc encore une fois, a priori, c'est compréhensible. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Mais là, encore une fois, pourquoi il y a cette manifestation du Saint-Esprit par un parler en langue ? Parce qu'ils partent de loin, les gars. Vous imaginez ? Eux, ils se sont arrêtés au début des évangiles. Ils se sont arrêtés au début du ministère de Jésus, quand c'est encore Jean le Baptiste qui baptise les gens pour la repentance. Leur foi, elle est là. Donc il y a une mise à jour à faire un peu, quoi. Sauf que pour la croire, la mise à jour, il faut qu'il y ait un petit peu quelque chose qui va attester. Il faut qu'il y ait un tampon, quoi. Faut qu'il y ait un cachet en bas du papier. Et le cachet en bas du papier, c'est il parlait en langue. On reçoit le Saint-Esprit. Et c'est pas juste, on a un chatouillis dans la colonne vertébrale. Si peut-être on a un chatouillis dans la colonne vertébrale, mais c'est attesté par le fait que je parle une langue, je parle la langue de l'autre ou n'importe. Et je dis des choses de Dieu en plus. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, en fait, à chaque fois où on voit parler en langue dans le livre des Actes, c'est à ces trois endroits-là. À d'autres endroits, comme je vous ai dit, il y a également conversion, il y a Saint-Esprit, il y a ce que vous voulez, mais il n'y a pas de parler en langue. Et là, à chaque fois, vous avez un motif. Et à chaque fois, d'a priori, ce sont des langues connues. Alors, pour l'acte 2, c'est même pas discutable. Il faut être un analphabète pour venir discuter que c'est autre chose qu'une langue qui est connue. Là, pour acte 2, il faut être analphabète. Je ne discute même pas. Pour les autres, OK, c'est pas spécifié. Mais d'a priori, les termes qui sont accompagnés avec mettent quand même à penser que c'est compréhensible. Hein ? Parce que c'est pas juste dit parler en langue. Parler en langue et y glorifier Dieu. Et y prophétiser. Donc des choses que normalement, on est censé pouvoir... Parce que pour qu'on puisse dire qu'il prophétise ou qu'il glorifie Dieu, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui le comprennent. Ou alors, je ne sais pas de quoi on parle. Mais voilà. Mais en tout cas, on est d'accord. Ce n'est pas marqué aussi spécifique. Et acte 2, il n'y a même pas l'ombre d'une discussion. Je vais vous dire une autre chose. Alors, attendez, où est-ce que je l'ai noté ça ? Où est-ce que je l'ai mis par là ? Non, peut-être pas cette droite ici. Je vous ai dit que le mot était glossa. Il y a un autre mot qui est utilisé en 1 Corinthiens 14, 10 pour parler de langue. 1 Corinthiens 14, 10 pour parler de langue. On va juste lire le verset et ensuite je vais vous dire le nom et je vais vous dire qu'est-ce qu'il signifie ce nom. Parce que glossa, je vous ai dit, ça parle de l'organe, la langue, ça parle d'une langue qui est connue et ça pourrait éventuellement parler d'une langue qui n'est pas connue. Mais après, faut-il qu'il y ait un contexte qui m'amène à penser ça. Et là, le contexte ne m'amène pas trop. Donc ici, il est dit... Bon, enfin, je ne vais pas expliquer ce que je lis au verset 9, mais c'est le verset 10 qui m'intéressera. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites ? Car vous parlerez en l'air. Donc ça, c'est un bout de l'argumentation de Paul. sur effectivement le parler en langue. Et là, vous, sans que je vous explique plus, vous comprenez bien que ce n'est pas extrêmement positif à l'encontre d'une pratique, d'une langue qui ne serait pas distincte. Parce qu'une langue qui est connue, elle est distincte. En tout cas, pour celui qui la connaît. Une langue qui est un charabia, elle est distincte pour personne. Éventuellement pour celui qui l'a dit. Et encore, même pas. Donc, verset 10. « Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue inintelligible. » Donc là, on est bien d'accord que le mot « langue » ici, qui est utilisé au verset 10, est en train de parler, dans le contexte de ce verset, d'une langue qui est forcément compréhensible et connue. Tout le monde est d'accord. Eh bien, ce mot-là n'est pas glossa. Et ce mot-là, en lui-même, il pourrait sous-entendre que ça soit une langue inconnue. Ce mot-là, c'est phoné. Ça peut parler d'un cri ou ça peut parler d'une langue. Donc si ce mot-là était utilisé dans acte 10 ou dans acte 19, comme on l'a lu, on pourrait dire, ah, le mot, il ne veut pas forcément parler une langue connue. Il veut parler, mais il peut même parler que d'un son. Et ça pourrait, quelque part, tendre à attester la pratique que nous voyons aujourd'hui. Mais là, le seul endroit où il a utilisé le mot, c'est dans un verset que vous, personne avec 2 grammes de cerveau peut me dire que ça veut dire autre chose qu'une langue qui est connue. Je vous relis le verset, moi, je lis juste le français. « Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses phonées, il n'en est aucune qui ne soit une langue inintelligible. » Donc, aucun moyen de défendre un charabia. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est tout. Donc, alors, sur le parler en langue, on va clore le débat. Il n'y avait pas de débat, il n'y avait que moi qui parlais. Mais ce n'est pas grave, c'est très bien comme ça. Ensuite, donc, il nous reste un petit quart d'heure. Il y avait qu'est-ce que je voulais... Ah oui, on avait parlé un petit peu de acte 15 la dernière fois. Alors on va juste oui voir très vite la chose. Sur acte on n'en dira pas plus, et la prochaine fois il faudra qu'on parle de Romains, et Romains on fera peut-être un cours ou deux sur Romains, et ensuite il faudra aller beaucoup plus vite pour faire le reste. Oui. Parce qu'une fois qu'on aura fait Romains, ça fait 5 et 6 livres moins 27, il en reste que 21 quoi. 21, il restera il restera 6 cours. Ça serait bien qu'il reste 6 cours, on va dire. Voilà. Ça serait grave. Mais enfin, je suis quand même pas mécontent de ce qu'on a fait jusque-là, malgré tout. Ça me paraît valoir le coup. Donc, acte 15. Pour ceux qui étaient là ou qui ont entendu le cours sur le site, qu'est-ce que j'avais dit ? De quoi ça parlait acte 15 ? De quoi parlait acte 15 ? Il faudrait que je parle en français, moi aussi. Ouais, le proto-consul, consul, non, il n'y a pas de consul là. Le proto-consul, c'est le premier concile de l'Église. C'est la première fois où, dans l'Église chrétienne, ils se sont rassemblés pour discuter d'un débat théologique. Et le débat théologique, il est lequel ? Il est, est-ce qu'on est sauvé par la grâce ou est-ce qu'il faut qu'il y ait encore une part à la loi ? Et qu'est-ce qu'on doit du coup par voie de conséquence imposer aux païens qui se convertissent, puisque là maintenant quelques années ont avancé et donc on est d'accord que les païens ont accès à la même foi que les juifs. C'est ce qu'on a vu avec acte 10, voilà, et après au bout d'un moment ils finissent quand même par intégrer quand même que c'est pour tout le monde, déjà que, enfin bon bref, c'est pas un peu autre. Déjà qu'ils se sont trompés pendant 1400 ans. Pendant 1400 ans, ils n'ont déjà pas compris. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, il faudrait peut-être quand même qu'ils comprennent que ce n'est pas que pour eux. Donc, conférence de Jérusalem. Je vais un peu vous paraphraser la chose. Donc, effectivement, il y a Paul et Barnabas qui sont envoyés à Jérusalem avec des gens d'Antioche, donc de l'église d'où démarre Paul. Si une chose que je vous dis rapidement, la référence, je ne l'ai pas sous la main, dans Actes, je ne sais plus à quel endroit, je crois que c'est quand même dans les premiers chapitres, c'est peut-être 6 ou 7, le premier endroit où il est dit, Il est nommé les croyants en Jésus-Christ comme étant des chrétiens. C'est à Antioche. Et donc, c'est stipulé à cet endroit-là, et c'est stipulé que c'était la première fois que ça arrive. 11-26, voilà. Il y en a, ils ont des références là-bas. Moi, je ne sais même pas noter. Ce n'était pas l'essentiel de ce que j'avais à dire. Mais je pense que c'est quand même important de le savoir malgré tout dans Actes. Donc ici, Paul et Barnabas, verset 2, eurent avec donc les judaïsants un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie, la Samarie, etc. Bon, verset 4, arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, au milieu des païens. Donc, alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, donc vous voyez que quand on parle beaucoup des pharisiens, il y en a quand même qui ont cru là-dedans. Enfin, on le sait qu'il y en a quelques-uns qui ont cru, puisque celui qui a... Enfin, en Jean 3, Nicodème était un pharisien, et celui qui a donné son tombeau à Jésus était aussi un pharisien, Joseph d'Arimathée, oui, c'est ça. Donc, qui avait cru, donc, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc, vous voyez, ça, pourquoi c'est intéressant que je vous lise ça. Ça va dans tout ce que je vous ai dit depuis le début. Quand je vous dis qu'on est dans une phase de transition, où les gens n'ont pas tout compris, et qu'ils ont besoin de gestes forts pour attester la parole. Vous imaginez, là, on est quelques années après Jésus, ça fait quelques années qu'il est... Il y a quelques années déjà qui ont passé là, c'est pas hier matin quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus il n'est pas ressuscité l'année dernière. La Pentecôte c'était pas il y a 6 mois. Il y a quelques années qui ont passé. Et les gars, ben, ils se disent ok bon, pour les païens d'accord, mais il faut quand même observer la loi de Moïse, il faut se faire circoncire quand même. Donc ça veut dire que le côté symbolique de la circoncision, ils n'ont rien compris. En tout cas à ce moment-là, ils n'ont rien compris. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de croyants juifs qui, à travers le monde de l'époque, devaient avoir rien compris les premières années. Donc, tant que Paul il n'a pas écrit Romains, Galates et Patinkoufen, et qu'ils ont eu l'occasion de le lire ou de se le faire expliquer, qu'est-ce qu'ils avaient dans leur petite tête? Ils savaient qu'il faut aller à la synagogue, qu'il faut continuer d'essayer quand même d'appliquer la loi, et que la circoncision, eh ben, elle est pour tout le monde. Puisque c'est ce que j'ai appris depuis que je suis tout petit. Je suis juif et c'est comme ça. Donc je veux bien qu'on rajoute un truc nouveau, mais on n'enlève pas le reste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a besoin de choses fortes pour comprendre, quoi. Mais nous, c'est pareil dans notre vie. Des fois, ben, il y a besoin que Dieu utilise des choses un peu fortes. Ça ne veut pas forcément dire des miracles, mais qu'il se passe quand même un peu des choses, quoi. Donc ils en sont là. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Là, il fait référence à Acte 10. Quand c'est lui qui, le premier, a compris de la part de Dieu que le salut, il va aussi chez les païens, quoi. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Donc je vous rappelle, on est sous la même bénédiction les enfants. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles, etc. et les prodiges que Dieu avait fait au milieu d'eux. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, donc là on s'en fiche que ce qu'ils ont raconté, vous voyez, c'est, en une phrase c'est réglé, parce que le problème c'est pas Paul, c'est pas Paul et Barnabas. Eux ils viennent, en fait ils suscitent le débat. Le débat est mis devant ceux qui sont les responsables de l'Église à Jérusalem et ceux qui sont reconnus dans les églises de l'époque, donc forcément, enfin, les apôtres, quoi, tout simplement. Et par contre, qui est-ce qui tranche derrière ? C'est pas Paul qui tranche. C'est pas Pierre qui tranche. Qui tranche la question, je veux dire. Qui tranche, il n'y a rien tranché. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole. Et Jacques, alors Jacques, pour moi, c'est Pompon. Hein. Jacques, c'est l'évêque de Jérusalem. Donc l'évêque de Jérusalem, c'est pas Pierre. C'est pas un des apôtres qui a suivi Jésus. Jacques, un des demi-frères de Jésus, qui pendant que Jésus était sur terre, n'a jamais cru qui il était. Et c'est pas un des Jacques qui sont parmi les apôtres qui suivent. Hein. C'est pas le frère de Jean, hein, les enfants. C'est Jacques, le demi-frère de. C'est celui qui va écrire effectivement l'épître de Jacques. Donc, homme frère, écoutez-moi, si Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Et remarquez, à chaque fois, je vous dis, quand je vous dis qu'on est dans une période transitoire, à chaque fois, ils font référence à quoi ? À l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'ont dit les prophètes ? Qu'est-ce qu'a dit Moïse ? Qu'est-ce qu'a dit David ? Ils ne sont pas en train de parler, ils ne sont pas là, Dieu m'a parlé, j'ai un truc à te dire, t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Non, 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 non. Mm-hmm. Toujours, toujours référence contextuelle, toujours la parole de Dieu. On n'est pas en train de parler par mon et par vous, on n'est pas en train de dire n'importe quoi. Non, non, non. Les choses, d'où est-ce que tu me dis ce que tu dis ? D'où est-ce que tu expérimentes ce que tu me dis ? Ça se défend comment ce que tu as expérimenté là ? Même ce que tu as expérimenté. Voilà. Comment est-ce qu'on l'argumente ? Est-ce que c'est en rapport avec les Écritures de l'Ancien Testament ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que c'est en rapport avec une prophétie ? Est-ce qu'il y a une parole qui l'atteste ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait un lien au moins ? À chaque fois dans tout ce qu'on voit là. Donc avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit, après cela je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Parce que là encore, vous allez commencer à trembler sur votre chaise. Et oui, parce qu'il dit « Mais qu'on leur écrive, aux païens, de s'abstenir des souillures des idoles. » Bon, jusque-là, ça va, on suit. « De l'impudicité, jusque-là, on comprend. Des animaux étouffés et du sang. » Alors, il n'y a pas de circoncision, mais alors, le sang, faut pas, et les animaux cuits bizarrement, c'est pas bon. Ah, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ? On est issus des païens, nous. Hein ? Incroyable. On fait quoi alors ? Vous avez mangé du boudin à midi ? Ah, bon. Alors, pourquoi il dit ça ? Pourquoi il dit ça ? Vous avez une idée ? Normalement, tout ce que j'ai dit depuis deux cours, ça peut vous donner. Pourquoi ? Alors, ça, c'est le point numéro un. Maintenant, de manière plus spécifique ici, pourquoi est-ce qu'il demande aux païens de ne pas pratiquer ça ? Là, on est dans un débat avec des judaïsants. On a des juifs en face de nous qui sont offusqués que les païens n'aient pas appliqué la circoncision et la loi. Lui, il résume la circoncision et la loi à quelque chose de beaucoup plus simple. Juste, comment est-ce que vous... plus simple. Donc l'impudicité, mais ça c'est un minimum basique dans la loi. Les idoles, l'idolâtrie, il s'agit qu'on ne mélange pas tout. Donc ça, vous devez vous en abstenir. Mais ça, je dirais que ça va perdurer. Ça ne va pas être que parce que c'est transitoire. Ça va être juste une manière de résumer la loi, en fait. Et pourquoi les animaux étouffés, le sang ? Eh bien, la raison, elle est simple. Tout à l'heure, je vous ai dit, on doit faire exception de personne. Ça va dans les deux sens. Ça veut dire que, oui, on accepte les païens qui ont cru tel quel au même niveau que nous, mais on va ménager votre susceptibilité. Et pour ne pas choquer les juifs, vous n'allez pas manger du sang, vous n'allez pas manger des animaux étouffés. Et ça, par contre, le sang et les animaux étouffés, ça ne s'applique plus aujourd'hui. Par contre, le fait de ne pas choquer le frère, qu'il soit juif ou autre, ça s'applique aujourd'hui. Et si vous voulez, par exemple, par rapport au, par rapport à la, l'abstinence vis-à-vis de l'alcool, le seul vrai argument biblique, c'est celui-là. Le seul vrai argument biblique, c'est de ne pas choquer le frère. Donc même dans l'absolu, tu bois ton verre de rouge à la maison chez toi, et quand tu es au resto avec les frères, tu ne le bois pas. Parce que tu ne sais pas si ce n'était pas une pierre d'achoppement pour les autres en face, qui croient dans la doctrine, qui croient quand même que bon, le vin, c'est pas le vin, l'alcool en général, hein, c'est pas génial. Et puis tu ne sais pas le passé du frère qui est à côté de toi ou de la frère-esse. Non, c'est la sœur. Ah ben, si les femmes, elles boivent aussi. Attends. Non, mais alors, ben, c'est bon, on voit. Hein. Mais voilà, je voulais vous dire, donc, le seul vrai argument pour une abstinence de l'alcool, c'est celui-là. Après, ce sont que des indications, des conseils. Voilà. Et après, je dirais que voilà, nous, au niveau de notre ministère, on l'applique de manière absolue aux responsables. Voilà. Mais ça, c'est une décision dans notre ministère. C'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est une recommandation pour se prévenir. Ce n'est pas un absolu biblique. Ce qui est un absolu biblique, c'est de ne pas être une pierre d'achoppement pour le frère et la sœur. Dans ce domaine-là, comme dans d'autres. Parce que je vais vous dire un truc, celui qui est riche devant le frère qui est pauvre et qui a des billets de 500 euros qui sortent des poches du matin au soir, ou qui avec sa Rolex, est-ce que c'est utile d'être avec sa Rolex à l'église? Je ne sais rien. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. C'est même pas de normes à mettre, mais je veux dire, celui qui est riche, par exemple, pour prendre ce cas-là, mais comme dans plein autre domaine, qui se pose la question. Quelle est la manifestation de ma richesse que j'amène et est-ce que c'est bien utile devant les frères et sœurs? Est-ce que c'est pas aussi une pierre d'achoppement? Tout comme quand on va dire, voilà, une femme, elle s'habille trop court ou je sais pas quoi, c'est quoi trop court? J'en sais rien. Mais qu'elle se pose la question, qu'est-ce que produit ma tenue? Sur les hommes. Enfin, pour l'instant, j'espère que c'est que sur les hommes. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais après, à ça, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'absolu. Mais par contre, chacun individuellement, ben, posons-nous la question. Parce que là, encore une fois, l'acception de personne, le fait de paraître une pierre d'achoppement, c'est personnel devant Dieu et ça s'applique pour tous. Voilà, c'est pas juste vis-à-vis des Juifs, là, en l'année 60-70 ou je sais pas quoi. C'est aujourd'hui aussi, on peut s'appliquer dans un certain nombre de domaines. J'ai dépassé mon temps. On a fini avec Actes et on se verra dans 3 semaines et on s'occupera de Romains. Merci à vous. J'appuie quelque part, de toute façon après tu dois me ce qu'il faut.